Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilités. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française. On met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Le secteur du retail est en berne. Entre les géants du luxe et l'ultra fast fashion, les marques du milieu de gamme s'échinent à survivre, annoncent des plans de redressement, voire déposent le bilan quasi quotidiennement. Toutes ? Pas exactement. Et ce n'est pas un minuscule acteur de l'habillement qui fait aujourd'hui figure d'irréductible, mais bien un visage historique. 370 millions de chiffre d'affaires en 2023, plus de 2100 collaborateurs, un parc international de 400 boutiques. Maintenir l'entreprise à flot semble déjà être un challenge en temps de crise. Ajoutez à cela la mise en place d'une vraie politique de transformation RSE et vous obtenez, me direz-vous, l'ascension de l'Everest par la face nord. Eh bien, cet épisode vous propose précisément de mettre de côté les fausses croyances évoquées. Parce qu'il est possible d'être sorti du Black Friday depuis 4 ans et de s'y tenir avec fierté, de réduire le nombre de références proposées et les volumes en général, et non seulement de générer de la croissance, mais de majorer sa rentabilité. Zoom au sein de la stratégie discrète et non moins efficace de repositionnement vertueux du groupe ProMode, où la culture du changement émane à la fois du dirigeant et de ses collaborateurs, où les outils de la transformation sont partagés en accès libre, comme la grille d'éco-conception open source développée par ProMode, téléchargeable gratuitement par le reste d'une industrie que l'on aimerait voir changer profondément. Parce que, si vous en doutiez encore, la pérennité des marques de mode est intimement liée à la sincérité de leurs engagements. Démonstration avec Julie Dumont, Juliette Rimbaud et Julien Paulet dans cet épisode d'Onward Fashion. Bonne écoute! Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Ça fait donc 20 ans que je ne m'étais pas intéressée à la marque et quand il y a quelques mois, j'ai voulu voir ce qu'il en était de votre évolution, des engagements RSE, je m'attendais peut-être naïvement à retrouver une marque en souffrance, comme beaucoup de marques milieu de gamme dans le retail en ce moment, une marque pas très engagée ou qui raconte beaucoup de choses sur ce qu'elle ne fait pas. Mal m'en a pris, puisque ayant eu l'opportunité de plonger dans le rapport RSE très détaillé, qui est d'ailleurs en accès libre pour l'année 2023 sur votre site web, j'ai découvert non seulement des choses très avancées par rapport à l'ensemble du secteur et en plus une invitation à partager des ressources prochainement. Ce dont on va parler aujourd'hui, la grille d'éco-conception notamment, mais dans le cadre plus global de la stratégie RSE du groupe. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Julie, Juliette et Julien. Je vais essayer de ne pas me tromper. Julie Dumont, vous êtes spécialisée dans la RSE chez ProMode. Juliette Rimbaud, vous êtes chef de projet RSE. Et Julien Paulet, vous êtes président. Bienvenue à tous les trois.
Merci.
Merci, bonjour.
Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de démarrer par les garçons. Julien, j'aurais aimé, avant qu'on entre dans le détail de la stratégie RSE et de l'éco-conception en général, qu'on démarre par peut-être un cadrage plus global, un peu la big picture du groupe qui a plusieurs décennies. J'imagine qu'il a rencontré pas mal de challenges et que vous avez repris il y a quelques années. Et peut-être tout simplement en expliquant ce que fait ProMode.
Bah merci. Alors Promote, c'est une entreprise française, familiale, indépendante, qui a été créée par mon père en 1975. Donc on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Promote conçoit, fait fabriquer, distribue et vend des produits de prêt-à-porter et d'accessoires pour femmes depuis l'origine. L'idée de départ de mon père était dans les années 70 d'offrir aux femmes la possibilité de s'habiller et de changer un peu plus régulièrement de garde-robe. Les femmes avaient tendance à travailler plus, à être plus dans la vie sociale. Et donc, il y avait un petit manque de mode plus accessible. Et donc, il a voulu créer cette marque Promode pour pour rendre cette mode féminine... assez raffiné. Il y a toujours ce sentiment de raffinement chez Promode depuis l'origine. Et donc voilà, Promode a grandi beaucoup à l'international. On a été l'une des premières enseignes françaises à s'exporter. D'abord en Belgique, naturellement, on a grandi à Lille. Et puis ensuite en Europe, au Moyen-Orient, jusqu'en Chine. Et Promode a grandi comme ça très fortement. On a eu jusqu'à plus de 1000 magasins dans 55 pays. En 2012, c'était un peu le pic. Et en 2016, Promode avec une crise assez importante, des pertes assez lourdes. Et à partir de 2017, on a commencé à entamer un virage. On s'est rendu compte que le business model de masse dans lequel on était, on avait petit à petit un peu glissé, mais comme beaucoup de marques milieu de gamme. Donc un business model de masse, c'est-à-dire toujours plus de produits, dans toujours plus de magasins, acheter toujours un peu plus loin, pour vendre toujours plus de volume. Et bien tout ça n'avait pas beaucoup d'avenir, parce qu'autant au début des années 2000, ça répondait à un appétit de consommation extrêmement puissant. Et puis, fin des années 2010, même avec de la promotion, on s'est rendu compte que nos produits, s'ils n'étaient pas vraiment pensés pour répondre à un besoin spécifique de la cliente, ne se vendaient pas, ou en tout cas beaucoup moins bien. Et donc voilà. Donc depuis 2016, on a entamé ce virage. Et moi, je suis rentré chez Promode en 2012. Et j'en ai pris la présidence en 2018. Et donc, j'accompagne maintenant ce beau projet qu'on a appelé le retail responsable sur mesure chez Promode. Donc, retail, parce qu'on veut rester une marque accessible, accessible dans tous les sens du terme, accessible en prix, mais aussi accessible en style, et puis accessible au plus grand nombre de femmes. Responsable parce que la RSE est maintenant au cœur de notre stratégie d'entreprise. Et sur mesure, pour bien sûr pas pour les vêtements sur mesure, mais plutôt pour un service sur mesure à chacune de nos clientes. C'est-à-dire considérer chacune des clientes qui entrent dans un magasin Promode comme une cliente unique avec un besoin spécifique. Et donc nos conseillères de mode sont là pour les accompagner dans leur acte d'achat.
Il y a déjà plein de points assez différenciants sur le même niveau de gamme en fait, du marché que je note. C'est que déjà, vous avez vécu une crise un peu plus tôt que les autres marques, et notamment plus tôt que celle du Covid. Et vous avez aussi pris un virage, on va en parler, mais d'éco-conception et RSE globale avant les autres, par opportunité aussi, enfin par bon sens commercial. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on le développe après. Pour bien comprendre ces deux points-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnait la production dans les premières décennies de la marque ? Parce que je crois que c'est d'emblée une marque qui, très rapidement, a délocalisé sa production. Est-ce que c'était le cas ?
Ça a été un processus, encore une fois, assez naturel parce que, au départ, quand mon père a commencé à distribuer des produits Promode au sein des boutiques Promode, au tout départ, c'était d'abord ce qu'on appelle décrocher dans le sentier. Donc, mon père venait chaque semaine à Paris racheter des collections pour ses magasins. Et puis, très vite, il a développé un studio de création pour avoir des produits spécifiques Promode qui ont été fabriqués. Il y avait beaucoup d'ateliers textiles dans le nord de la France. Et puis, on a acheté nos trenches à Armentières, notamment à côté de Lille. Assez vite, le Maghreb a développé des compétences textiles très, très intéressantes. Et donc, on a commencé à délocaliser plutôt au Maghreb. Et puis, ensuite, encore plus loin, l'Inde et la Chine, notamment, le Bangladesh aujourd'hui. Mais aussi pour... bien sûr pour des questions de coûts. Et quand on était dans un business model de masse, ce qu'on appelle la marge d'entrée, c'est-à-dire acheter le moins cher possible, permet d'avoir une marge d'entrée importante et permet d'absorber de la promotion si on a besoin d'en faire. Ça, c'était important dans le business model historique. Mais on est aussi allé chercher des compétences et des savoir-faire. On parle souvent de l'Inde pour le savoir-faire des broderies, on parle souvent de la Chine pour le savoir-faire autour du flou. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher ces compétences-là. Maintenant, aujourd'hui, si on voulait rapatrier notre production en France, on est très embêté parce que on n'a malheureusement plus autant de savoir-faire aujourd'hui en local. Ce qui n'empêche pas que on souhaite chez Promode rester un acteur aux côtés des entreprises industrielles made in France. Et donc on développe maintenant chaque saison. Au moins une initiative Made in France pour soutenir ces acteurs-là.
C'est hyper intéressant parce qu'autant la relocalisation associée à la décarbonation tombe sous le sens et en même temps est problématique parce qu'associée à énormément de coûts, perte de savoir-faire, on l'a dit, autant la question de la responsabilité de la création de valeur économique dans des pays très lointains et on a vu dont s'est défaussé beaucoup de marques pendant le Covid, vous l'avez et vous avez aussi une grande fidélité avec le parc fournisseur, le parc de fabrication aussi, d'usines partenaires. Donc tout ça rend très intéressant à mon sens cet épisode parce que c'est un cas d'école de la complexité de la transformation concrète d'une grosse marque. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, parce que vous avez eu une vie professionnelle avant de rejoindre Promode, donc nous expliquer un petit peu quelle est votre formation et d'où vous venez avant de reprendre?
Alors moi j'ai une formation d'école de commerce classique, mais j'avais très vite identifié que le monde de la mode m'intéressait et j'ai eu besoin d'aller m'intéresser à d'autres univers avant de rejoindre l'entreprise familiale. Après mon école de commerce, j'ai fait un master à l'IFM, à l'Institut français de la mode à Paris, en management dans les métiers de la mode. Et ça m'a donné accès notamment au secteur du luxe. L'IFM est très implanté dans les différentes marques de luxe parisiennes. Et j'ai eu une expérience de 7 ans chez Louis Vuitton. D'abord au prêt-à-porter femme. Le prêt-à-porter femme chez Louis Vuitton est né au début des années 2000. Et moi, j'y suis rentré en 2005. D'abord au prêt-à-porter femme, au développement produit, et puis ensuite en maroquinerie homme. J'ai adoré cette expérience-là. Louis Vuitton est une très très belle marque, on en parle beaucoup. Mais c'est surtout une marque qui s'est construite autour d'un vrai savoir-faire et qui vend du rêve, qui vend de la désirabilité, qui vend le beau geste à ses clients. Les produits Louis Vuitton sont très chers, mais on vend avant tout cet imaginaire autour de ça. Et mon rôle en tant que chef de produit ou chef de groupe là-bas était de mettre en lumière tout ça. Et quand j'ai à un moment choisi de rebifurquer vers l'entreprise familiale, j'ai eu besoin de m'intéresser à ce qu'avait créé mon père et à m'impliquer dedans. Je me suis dit, mais en fait, dans un produit Promode, dans une robe Promode, il n'y a pas beaucoup moins de savoir-faire que dans une robe Louis Vuitton ou Christian Dior. Ça reste du stylisme, du modélisme, de la mise au point, de la confection. Bien sûr, c'est pas les mêmes matières, ce ne sont pas les mêmes détails. Mais en reprenant la marque Promode aujourd'hui, c'est bien autour de ce savoir-faire-là et de montrer à nos clientes et de faire savoir à quel point il y a de la compétence et de l'amour du textile dans chacun de nos produits. Parce qu'on a la chance chez Promode d'avoir nos styles, nos propres stylistes, et Julie est là pour en témoigner. Mais aussi, nous avons tout un bureau d'études avec des modélistes, avec aussi un atelier de prototypage en interne à Marc-en-Barœul, près de Lille. Et donc, on intègre beaucoup de savoir-faire dans chacun de nos produits, avec un bien-aller, avec des carcasses Promode, comme on les appelle en interne.
Donc vous êtes arrivé dans une période en tête, on va dire, dans une période de crise avec donc ces valeurs, cet amour du produit et ce respect pour le savoir bien faire. Je crois que c'est difficile de se faire un nom globalement. Un prénom, c'est encore plus compliqué. Donc qu'est-ce que c'était la proposition de valeur de Julien Pellet dans un groupe familial en plus où l'actionnariat est principalement détenu par les membres, les membres de la famille? Comment vous avez convaincu?
Je suis arrivé avec un projet qui était très simple. Donc j'avais déjà passé 6 ans dans l'entreprise avant de souhaiter en prendre les rênes. J'étais convaincu que Promed avait des atouts vraiment intéressants en main pour proposer quelque chose de différent dans ce secteur et des avantages indéniables comme ce savoir-faire textile qu'on a toujours gardé en maîtrise en interne chez Promod, et ça c'est assez unique pour le souligner. Nous sommes des retailers diffusés via un large réseau de magasins et on peut s'appuyer sur un réseau de magasins très qualitatif. Et enfin, et peut-être même surtout, on a chez Promed des équipes hyper engagées. Mon père a vraiment créé cette entreprise autour de valeurs humaines très fortes. On croit beaucoup en l'humain chez Promed depuis la création. Et ça, j'ai pu le toucher du doigt. Et je me suis dit, si on peut avoir une chance de transformer l'entreprise, ça se fera en tous les cas avec les hommes et les femmes en interne. Et y a un tel engagement que ça semblait possible. Et puis, donc ça, c'était le postulat de base. Et puis ensuite, je suis allé voir mon père en lui disant, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer la valeur ajoutée chez Promod. Je ne veux pas me battre que sur le prix. On est une marque accessible. C'est important de rester accessible en prix, en style, on l'a vu, pour différentes clientes. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se batte sur la valeur ajoutée du produit et sur la mise en lumière de tout ce savoir-faire qu'on intègre dans chacun des produits. Et faire un produit toujours moins cher, il y aura toujours quelqu'un de plus malin ou de plus bête pour le faire. Et moi, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est vraiment de rendre accessible un produit avec le plus de savoir-faire possible et avec le plus de valeur ajoutée possible.
Et donc, concrètement, partant de ce postulat et voilà, de ces nouvelles valeurs, cette nouvelle direction, comment, en fait, quel a été le momentum où vous vous êtes dit, OK, bon, la stratégie, c'est ça, enfin, plutôt le plan, c'est celui-ci, mais comment est-ce qu'on met en place une stratégie? Donc, encore une fois, on va rentrer dans le détail de la RSE et de l'éco-conception, mais plus globalement, notamment sur cette logique de volume, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes recentré sur le produit? Comment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez incarner cette volonté de transmettre les savoir-faire à travers un produit qui reste accessible?
Je pense que, dans l'histoire de Promod, donc mon père qui est le fondateur et qui a eu l'idée de cette entreprise est quelqu'un de très produit et a toujours été très proche du produit. Et puis l'histoire de l'entreprise a fait que il a pris du recul par rapport à l'opérationnel, que d'autres personnes ont pris la tête de l'entreprise qui était peut-être un peu plus orientée commerce que produit. Moi, j'ai une sensibilité produit et un amour du produit, et puis une formation aussi autour du produit. Et quand je suis rentré chez Promod, assez naturellement, j'ai passé plus de 4 ans à travailler sur le produit, et notamment sur l'accessoire. Mais venant de chez Louis Vuitton, voilà, j'étais plutôt sur ce produit-là. Mais, il m'est semblé assez naturel et évident que le renouveau de la marque passerait d'abord et avant tout par le produit. Monter sur le cheval et reprendre les rênes de l'entreprise était pour moi aussi une façon de remettre le produit au cœur de notre stratégie, avec beaucoup plus de paramètres qu'auparavant. Et ça, je pense que c'est important qu'il y ait aussi une nouvelle génération qui rentre à la tête de l'entreprise pour ça. À l'origine, il fallait d'abord faire un bon produit. Ensuite, c'était un bon produit au bon prix distribué au bon endroit. Et maintenant, ce sont tous ces paramètres-là, avec en plus toutes les notions responsables, écologiques et durables qu'il faut savoir intégrer. C'est juste une contrainte supplémentaire qu'on s'impose, mais qui est absolument essentielle. Une de mes convictions aussi, au moment où j'ai repris Promod, c'est qu'une entreprise de textile féminin, en tous les cas, ou de textile en général, doit être durable ou ne sera pas, en fait. C'est pas une option, c'est une nécessité pour espérer avoir un avenir dans le métier. Et donc, c'est ça aussi qu'on a souhaité mettre en place.
C'est intéressant parce que la contrainte que vous décrivez, donc de l'éco-conception, effectivement, c'est un peu La cerise sur le gâteau, si on part du principe que l'hyperproduction est la problématique dans la pollution de cette industrie, et vous avez commencé effectivement par faire cette espèce d'arrêt sur image en se disant « Ok, recentrons-nous sur le produit, réduisons le nombre de références aussi, on va en parler, mais ce qui est une exception, en tout cas sur votre segment de marché ».
Oui, peut-être. Alors, je ne connais pas les chiffres des autres et je préfère parler de nous que de parler des autres. Mais effectivement, alors, chez Promode, on a eu, 2017, comme au moment de cette prise de conscience, il y a eu d'abord effectivement un recentrage du nombre de références. On a baissé de 20% le nombre de références distribuées d'une saison à l'autre. Ça a été assez drastique, mais absolument essentiel pour éviter de se disperser. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a eu un développement international extrêmement puissant, extrêmement important et rapide. Et quand ça a été moins bien, là, moi, j'ai eu vraiment le besoin et le sentiment qu'il fallait nous recentrer aussi physiquement pour mieux pivoter ensuite notre business model. Et donc, on est passé de 1000 magasins dans 55 pays à 400 magasins dans 5 pays en 3 ans de temps. Donc ce recentrage a été assez drastique. Alors, accéléré aussi par la crise Covid qui est passée par là. Ça a permis d'être moins dispersé. Et on continue encore aujourd'hui à optimiser notre nombre de références proposées. Ça ne veut pas dire que notre offre est moins intéressante pour la cliente. Et c'est justement tout l'enjeu de mieux mettre en avant certains produits qui sont capables de traverser les saisons. Et il n'y a pas besoin de modifier un jean bleu d'une saison à l'autre. Et un bon pantalon noir, eh bien, il peut se vendre sur deux ou trois saisons, ce n'est pas très grave. Cette nouvelle répartition des produits entre des nouveautés qui rendent nos collections désirables et puis certains produits plus essentiels qui peuvent durer dans le temps.
Donc si je résume un petit peu la promesse de la marque telle que je la comprends aujourd'hui, du style, de la qualité, de la durabilité au sens qualité et savoir-faire, mais aussi en termes d'éco-conception. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses
Alors, il y a trois mots qu'on partage beaucoup en interne, qui sont désirable, accessible et durable. La désirabilité, le raffinement du produit, c'est quelque chose qui est très important. Le produit est au cœur vraiment de notre stratégie, hein, et donc on est là pour satisfaire et pour séduire aussi les femmes qui rentrent dans le magasin. Accessible, on en a déjà beaucoup parlé. Et puis, cette durabilité. Là aussi, je pense que dans cette mode accessible ou milieu de gamme, il y a un petit peu deux manières de voir les choses. On peut soit se dire on fait une mode vraiment accessible en prix, quitte à ce qu'elle soit pas très durable dans le temps, mais on va trouver des solutions de recyclage plutôt que de seconde main. Ou alors, on fait une mode accessible et durable, c'est-à-dire plus qualitative, elle sera peut-être un petit peu plus chère, mais elle va avoir une valeur, le produit va avoir une valeur en seconde main, en troisième main, et c'est plutôt cet axe-là qu'on a choisi chez Promode. Parce que moi, je suis convaincu qu'on préfère mettre quelques euros de plus pour avoir un produit dans une meilleure qualité de matière, avec des vraies belles finitions de bien aller, etc. C'est plus agréable de le porter au quotidien. Et quand on souhaite le revendre ensuite, il a une plus grande valeur qu'un produit presque jetable.
Avant de passer la parole aux collaboratrices qui sont avec nous et qui sont, je pense, des meilleures ambassadrices justement de ces nouvelles valeurs, est-ce qu'on peut faire un petit peu de maths et avoir quelques données chiffrées Alors, comme je vois que vous avez des antisèches, peut-être les dérouler, mais ce qui m'intéressait, c'était le nombre de collaborateurs, le nombre de références mises en marché, le chiffre d'affaires, si on peut le mentionner. Les pays, on en a mentionné 5, mais voilà, sur lesquels vous êtes actifs, etc. Est-ce que vous pouvez nous partager ça?
Donc, Promode, c'est aujourd'hui, comme je l'ai dit, une marque française, familiale. On est distribué dans 5 pays, France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Malte. Et quand je parle de la France, c'est la France au sens large, c'est-à-dire la France métropolitaine, mais aussi les DOM-TOM, la Réunion et les Antilles. On a donc 400 magasins dans ces 5 pays-là, à peu près 2000 collaborateurs qui travaillent chez Promode. On met à peu près 14 millions de pièces en marché par an, mais avec un taux de résiduel extrêmement faible. Peut-être on en parlera après.
Oui.
Et le chiffre d'affaires est en 2023 de 370 millions d'euros. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ?
Quelques mots sur la répartition. Ça, c'est assez intéressant chez vous parce que vous avez quand même différentes fourchettes d'âge, de clientes type. Et les méthodes d'achat ne sont pas les mêmes, physiques et digitales. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler ?
Oui. Alors, l'âge moyen de la cliente promote, c'est 46 ans. On a une part du digital qui est autour de 8%. Donc, c'est 92% en magasin. Et voilà, on touche notre cliente type, c'est donc une femme plutôt urbaine. On est plutôt présent dans les villes importantes, entre 40 et 50 ans, voilà. Qui apprécie. Alors oui, on peut parler du style, parce que Promenade, c'est d'abord un style plutôt néo-bohème, on aime bien véhiculer cet esprit un peu de liberté et de voyage dans nos collections. On diffuse une mode féminine, raffinée, coloré et imprimé. On insiste beaucoup sur tout ça. Voilà, c'est une mode plutôt joyeuse et dans la tendance, mais toujours accessible en termes de portée de bien-aller. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des produits trop extrêmes en termes de fitting, par exemple. Voilà.
Et on va voir que la question des imprimés quand on éco-conçoit est retors. Autre question, peut-être dernier chiffre. La durée moyenne des contrats avec les collaborateurs et les collaboratrices chez Promode, assez bluffante.
Oui, alors on a effectivement la chance d'avoir des collaborateurs fidèles. Et je pense que vraiment, je parlais de valeurs humaines tout à l'heure et comme quoi Promode avait été fondée avec cette ferme volonté de s'appuyer sur des valeurs fortes vécues et diffusées dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une vraie disparité en fait, de durée de contrat de travail entre les magasins, le siège ou la logistique, parce qu'on opère notre propre logistique. La durée moyenne des contrats en magasin, c'est 5 ans, 5 ans et demi. Et c'est normal, il y a beaucoup plus de turnover dans nos boutiques. Au siège, c'est 12 ans et c'est 22 ans en logistique. Voilà, une vraie fidélité.
Ce sont des carrières chez vous, quoi, littéralement. Parce que 5 ans et demi en boutique, c'est énorme, même si ça paraît court par rapport aux autres secteurs de l'entreprise.
Depuis cette année, j'ai souhaité récompenser, lors des vœux, les traditionnels vœux du mois de janvier, récompenser les carrières longues. Et on a récompensé une carrière de 40 ans. Deux d'ailleurs, une personne à la comptabilité et une personne en magasin. Voilà. Donc,
Génial, ben alors on va passer le mot à ses collaboratrices, passer la parole. On va commencer avec vous Juliette, parce que c'est, alors de façon un peu caricaturale, on a eu la version, on va dire, top management des objectifs de l'entreprise et de la stratégie à mettre en place. Vous êtes à l'interface entre donc cette partie de la société et puis les collaborateurs qui, d'après ce que j'ai compris, sont hyper motivés, engagés et à l'initiative de plein d'actions pour la transformation du groupe. Est-ce que, avant de nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ce petit monde en marche, vous pouvez revenir sur votre parcours et plus spécifiquement votre formation sur les sujets RSE?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai fait une formation d'ingénierie textile à l'ANSET, du coup, à Roubaix. Et ensuite, pour le parcours professionnel, il est assez simple puisque j'ai commencé chez Promode en stage. Donc pendant 6 mois, mon stage de fin d'études où j'étais moitié qualité, moitié RSE. Et à l'issue de ce stage, donc, on m'a proposé de rester. Et depuis, je suis restée. Donc ça fait 6 ans que je suis chez Promode.
C'est QFD.
Voilà, ça fait le lien. Et justement, ce qui était hyper intéressant pour moi et ce aussi pourquoi j'ai voulu rester, c'est que je suis arrivée presque au démarrage en fait, de la démarche RSE, surtout côté fournisseur. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, parce que beaucoup d'évolutions réglementaires aussi qui se sont mises en place, cette volonté d'aller vers un retail responsable et sur mesure. Et du coup, mon propre poste en fait, a évolué dans ce sens-là. Et j'ai pu faire vraiment passage de chargé RSE vers de la coordination et aujourd'hui chef de projet. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir toucher un peu la partie plus opérationnelle, à la partie un peu plus stratégique aujourd'hui. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir l'embarquement des différents collaborateurs autour des sujets RSE.
Oui, parce que finalement, la formation ingénierie textile, on est plutôt focus produit. Là, aujourd'hui, vous coordonnez l'ensemble des équipes pour le groupe.
Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, j'ai vraiment cette casquette de pouvoir un peu animer dans la direction les projets RSE, plutôt en management transverse. Et c'est vrai que la partie RSE, pour le coup, pendant mes études, je l'ai pas forcément vue telle quelle. Surtout qu'il y a 6 ans, c'était pas forcément des sujets qu'on abordait pendant les études. Il y avait quand même quelques cours autour de l'analyse de cycle de vie. Donc, on a quand même cette perception des impacts, surtout liés à l'industrie textile dans cette école. Mais en fait, ce que j'ai surtout appris, c'était sur le terrain, donc que ce soit via mes responsables au fur et à mesure des années. Ça a été aussi des groupes de travail avec d'autres enseignes, parce que du coup, Promode est membre de l'ICS depuis 2017. Donc, c'est Initiative for Compliance and Sustainability. Et en fait, cette initiative, elle permet de rassembler plein de marques autour des sujets RSE. Et c'est là aussi où j'ai appris beaucoup d'expériences de nos concurrents ou même de marques hors secteur textile. Et ça a été hyper enrichissant pour moi. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de conférences, de formations, de webinars sur ces sujets-là. Par exemple, Produrable et Fashion Green Days, donc qui permettent aussi de s'ouvrir un peu à plusieurs thématiques autour de la RSE.
Il y a plein de mots-clés sur lesquels on va rebondir, mais des notions très intéressantes déjà. À travers nos différents entretiens pour la préparation du podcast, j'ai noté globalement l'absence de justement formation consensuelle et de banque de ressources centralisée. Et c'est vrai que quand on interroge les gens sur leur formation RSE, en particulier dans des métiers dans lesquels ils sont depuis des années, il y a toujours un peu on a l'impression d'être cornerisé sur « ah bah oui, mais j'ai pas de diplôme parce qu'en fait, il n'y a pas de formation ». Donc globalement, c'est « je picore ici et là » et c'est d'autant plus difficile, je pense, d'avoir une vision globale des sujets et ensuite de mettre sur pied des moyens pour la transmettre à ses collaborateurs. Et donc c'est ça dont on va parler, puisque c'est votre quotidien. Pour bien comprendre, peut-être encore une mise en perspective, comment est organisée la confection de vêtements chez Promode, deux façons de faire, peut-être forfait façon de détailler.
Oui, exactement. On a deux manières d'acheter chez Promode, donc au forfait et à façon. Au forfait, on va aller acheter directement un produit fini en fait, à un fournisseur. Et c'est lui après qui est plutôt responsable de son sourcing, donc de son approvisionnement en tissu, etc. Et on a aussi le travail du coup à façon, où là on va aller acheter un tissu auprès de nos fournisseurs de tissus. Et ensuite ces tissus, on va les envoyer à des façonniers donc, qui sont au Maroc et Tunisie au global. Et en fait cette partie façon, ça nous permet quand même d'avoir plus la main sur le sourcing, sur l'approvisionnement. Et notamment aussi sur la partie plus style, mais sur les imprimés. On a des graphistes du coup en interne qui vont travailler sur les imprimés là et qui vont permettre ce savoir-faire dont parlait Julien aussi.
Parce que vous réalisez ce que mentionnait Julien, beaucoup de prototypes dans l'atelier.
Oui, on a effectivement un atelier du coup de montage où on fait des prototypes et ça nous permet de, surtout pour les stylistes, pour le coup, de mieux visualiser le produit fini et du coup de pouvoir un peu mieux comprendre comment le réaliser, comment l'optimiser aussi, la partie modélisme, comment faire en sorte que le bien-aller soit en phase avec ce qui avait été imaginé dès le départ.
Et ça, concrètement, ça doit permettre des économies, j'imagine, de papier, d'aller-retour en avion ou en autre d'ailleurs, mais pour aller vite généralement sur les protos.
Ouais, tout à fait. On essaie de diminuer ça au maximum. Et après, on a toujours besoin quand même de recevoir quelques prototypes de la part de nos fournisseurs, notamment au forfait. Quoique, on commence de plus en plus aussi à faire de l'élaboration de prototypes au forfait également. Et après, toute la partie, où on achemine ces prototypes jusqu'à chez nous. On essaie quand même de limiter tout ce qui est emballage au siège. On essaie de faire des petites sensibilisations avec les fournisseurs et en interne.
Est-ce que vous pourriez nous donner la définition d'un produit éco-conçu chez Promode ?
Yes. Alors, un produit éco-conçu pour Promode, parce que du coup, il n'y a pas forcément de définition officielle aujourd'hui. Mais pour nous, un produit éco-conçu, c'est vraiment un produit qui va prendre en compte tous les aspects environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie. Donc, que ce soit de la matière première, de la fabrication du tissu, de la confection, la logistique, l'utilisation et la fin de vie. Donc, prendre tous ces aspects-là avec trois objectifs. Faciliter la recyclabilité, réduire l'impact environnemental et assurer la durabilité dans le temps. Et l'enjeu aussi de l'éco-conception, ça va être de garder la fonction d'usage du produit, c'est-à-dire qu'on va l'avoir conçu pour une certaine utilité, et c'est de garder cette utilité dans l'éco-conception. Donc de ne pas perdre de vue à quoi il va servir à la fin.
Donc en ce qui concerne la partie... on va dire, c'est ce qui concerne la partie vraiment usage et vie du produit dans le cycle de vie dans son ensemble. Et donc ça, On va parler en détail de la grille d'éco-conception, mais donc ce sont des critères concrets, au-delà de la bullet list, des critères concrets qui s'accompagnent de pondérations, de scores. C'est ça que vous avez voulu mettre en place à travers cet outil pour pouvoir, si j'ai bien compris, pour chacun des produits évaluer en amont de sa conception son impact, son score d'éco-conception chez vous.
Oui, c'est ça, c'est cette définition, en fait, c'est de la traduire sous des leviers, des critères, justement sous ces différentes étapes, pour qu'on puisse, surtout les équipes de développement produit, activer en fait ces leviers-là. Et cette activation va permettre ensuite d'identifier si le produit est éco-conçu ou s'il ne l'est pas, encore une fois, selon notre définition interne.
Je voudrais revenir sur la fonction d'usage, parce que bon, déjà, c'est peu de marques se l'approprient, encore plus quand on est une marque de... Je ne sais pas si vous vous définissez comme étant une marque de fast fashion, mais en tout cas avec un renouvellement relativement rapide des collections, parce que le but, c'est de vendre de la nouveauté souvent. Comment est-ce que concrètement, vous l'évaluez, cette fonctionnalité d'usage ?
Alors, je dirais qu'elle ne s'évalue pas techniquement. Enfin, il n'y a pas de données derrière la fonction d'usage. Ça va être plus aux équipes de développement produit, donc les acheteurs, chefs de produits, stylistes, de garder cette vision justement de pourquoi est-ce qu'ils ont voulu concevoir ce produit-là, dans quel but, pour servir quel besoin, et de s'assurer qu'après l'éco-conception, on garde cette même utilité. Donc on a par exemple, si on a un débardeur avec une volonté d'avoir ce toucher un peu doux pour porter au quotidien, avec une dentelle, en fait c'est de garder cette fonction d'usage-là jusqu'à la fin. Donc on ne va pas aller enlever la dentelle, parce que sinon il va perdre tout son style. On ne va pas aussi détériorer l'effet de la matière, puisqu'on veut qu'il soit doux sur la peau. Donc c'est vraiment de bien définir l'utilité, le besoin, et le garder jusqu'à la fin. Mais techniquement, on ne peut pas vraiment l'évaluer en tant que tel.
Mais j'imagine qu'il y a des itérations produits, ce qui rejoint l'intérêt de faire ce qu'on évoquait, des bons basiques, qui sont les mêmes trois saisons d'affilée et qui de toute façon se vendent, et en particulier si on les améliore d'une collection à l'autre. Ça va être un petit peu plus peut-être le credo de Julie. Comment est-ce qu'on organise, alors question extrêmement naïve, la RSE dans un groupe de 2000 personnes? J'imagine que tout le monde n'est pas concerné évidemment au siège, mais comment est organisé chez vous le pôle RSE? Comment il essaime dans les différents départements?
Alors le pôle RSE, on est en fait relié au service qualité RSE, donc sous la direction de l'offre. Donc on a une responsable qui s'occupe du pôle. Et à l'intérieur de ce pôle-là, on a deux coordinatrices qui vont faire plutôt le suivi des fournisseurs, donc les accompagner sur toute la partie contrôle des conditions sociales, des conditions de travail, les conditions aussi sur l'environnement, et accompagner tous ces fournisseurs et leurs usines dans une démarche d'amélioration continue. Elles vont aussi travailler sur certains projets plutôt stratégiques pour l'entreprise. On a une personne aussi qui est en alternance, qui est chargée RSE, qui va être vraiment le soutien opérationnel aux coordinatrices pour tout ce qui va être planification des audits, renouvellement, vérification des certificats, etc. Et ensuite, on a deux chefs de projet. Donc un qui va être plus sur la partie qualité et développement durable, et notamment qui a, avec une coordinatrice, le sujet de la CV et de la fiche environnementale. Et ensuite, du coup, je suis là aussi sur la partie RSE et développement durable, donc pour animer toute la partie projet, pilotage, accompagnement des équipes sur les différents projets. Et au-delà de ça, du coup, on a aussi une RSE un peu plus transverse, où là, c'est animé par un copil. Donc, c'est le copil RSE et engagement, qui est piloté aussi par la responsable RSE et un chef de projet RH. Et en fait, à l'intérieur de ce copil, on a des invités permanents, dont Julien. Et on a aussi au moins un référent par direction. Et c'est ce référent-là qui va justement avoir ce rôle d'animer et d'accompagner les équipes dans... tous les projets justement qui ont été définis et validés par la direction pour la stratégie de l'entreprise. Donc c'est pas mal de collaborateurs finalement viennent s'ancrer et s'embarquer dans la RSE, même s'ils n'ont pas l'étiquette RSE sur leur métier.
Et vous diriez que ces objectifs peut-être qui sont définis en copile ou en groupe de travail, c'est de l'ordre de quelque part testing, la R&D, ou bien il y a des KPIs au même titre que les KPIs financiers avec un objectif d'éco-conception?
Souvent, on part avec plutôt du test and learn. Donc, on va avoir un projet plutôt de test donc sur un plus petit scope. Et si ça fonctionne et qu'on voit qu'effectivement, il y a moyen de le diffuser à plus grande échelle, on y va. Et là, du coup, il y a des KPI qui sont mis en place. Et pour le coup, l'éco-conception, ça s'est passé comme ça. C'était du coup 6 volontaires qui viennent de plusieurs métiers différents et qui se sont donné cette ambition d'avoir l'éco-conception chez Promode, une définition et de pouvoir former les équipes à ça. Et derrière, ensuite, on a réussi avec la direction à mettre en place des KPI pour la direction, pour l'entreprise, qu'on communique aussi sur le rapport RSE par la suite. Et on est aussi là aussi aujourd'hui pour en parler, donc plutôt pas mal.
Pour qu'il y ait donc une mise en perspective ou plutôt un pendant économique, j'imagine, de réalité économique, des modèles théoriques de transformation que vous proposiez. Parce que je pose la question et peut-être on peut te donner un exemple concret. Je crois que dans la circularité, il y a des initiatives comme ça chez vous sur le promo de couture, par exemple, qui sont donc au départ des projets intrapreneuriaux de collaborateurs qui ont une bonne idée. Mais ensuite, la mise en place de concrète et le fonctionnement économique de ces projets, c'est encore une autre histoire. Donc, il y a une écoute, en tout cas, du côté...
Oui, c'est vrai que le meilleur exemple, je pense, c'est Promode Couture. Promode Couture qui est venu pareil. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, les groupes Ecology, même si maintenant le nom commence à se dissiper un petit peu. Mais donc, c'est ces groupes de travail où les collaborateurs diffusent leurs idées. Et ça prend, des fois. Et notamment, Promode Couture a bien pris. Et c'est vraiment une équipe de couturières. Moi, je pense, Julie, aussi, tu as un peu participé à ce projet-là. Mais c'est vraiment des couturières dans l'âme qui, du coup, ont voulu un peu plus proposer ce patronage, utiliser des stocks dormants, du coup, de nos productions pour pouvoir proposer des coupons à la vente et des patronages qui vont avec. Et en fait, ça a tellement bien marché que maintenant, on a une page sur le web avec des coupons qu'on vend. On a une page Instagram aussi, Promode Couture. On participe à certains salons autour du savoir-faire. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur.
Je me permets juste d'intervenir. Effectivement, dans notre démarche RSE, au moment où, au tout début, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, quand on a mis ça en place, on ne savait pas bien par quelle boule prendre, comme beaucoup. Et ce qui est les groupes Ecology dont vient de parler Juliette, c'est beaucoup d'initiatives de la part des collaborateurs. Il y a beaucoup de collaborateurs engagés qui voulaient faire quelque chose pour la RSE. Et donc, on a mis en place ces groupes de travail pour... En bottom-up pour aller écouter un peu ce que les gens avaient à dire et dans quoi ils voulaient s'engager. On a recensé comme ça beaucoup d'idées extrêmement intéressantes, dont Promode Couture, dont Juliette vient de parler. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de recanaliser un peu tout ça, d'où ce comité de pilotage RSE et engagement qui a pris en compte toutes ces initiatives. Et puis, maintenant, il s'agit d'avancer de manière un petit peu plus structurée qu'auparavant et qui vient recadrer un petit peu pour que on avance de manière un petit peu plus structurée sur des objectifs plus macro qu'on s'est fixés. Ça peut être l'éco-conception, ça peut être le bilan carbone, des choses comme ça. Et donc, on restructure un petit peu. Donc, il y a eu vraiment ce bottom-up et maintenant, c'est un petit peu plus top-down pour structurer et avancer de manière un peu plus coordonnée.
Et donc, on va voir un beau cas d'école avec la grille d'éco-conception. Juste avant ça, est-ce que, Juliette, vous pouvez nous dire un petit peu comment, aujourd'hui, vous formez en continu ? Donc, on a évoqué le Fashion Green Hub, par exemple, les webinaires. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations dans votre veille ?
Alors, comme source, c'est assez compliqué. En fait, il y a beaucoup de possibilités de sources différentes. Nous, on est vraiment en veille aussi sur la partie média. Et je vais reparler d'ICS aussi, mais qui nous propose des news très dédiées aussi sur les risques au pays. Donc, on est en alerte aussi sur ces sujets-là. Ça peut être aussi sur les réglementations. Alors, on n'a pas dans le service RSE une formation de juriste, mais on est aussi accompagné en interne sur ces sujets-là. Il y a les podcasts qu'on écoute aussi de notre côté, les vidéos sur YouTube. Enfin, tout est bon à prendre dans ces sujets-là.
Et d'ailleurs, on va moins l'évoquer peut-être aujourd'hui, mais il y a quand même une grande dimension sociale dans le volet Promode responsable. Peut-être vous pouvez nous expliquer rapidement comment vous fonctionnez principalement sur les audits, parce qu'on l'a évoqué, vous avez une chaîne de valeurs qui sont assez éparses et lointaines. Comment ça marche chez vous ?
Alors chez nous, la première étape, c'était de pouvoir tracer toutes les usines avec lesquelles on avait une relation en direct. Donc nous, c'est ce qu'on va appeler le rang 1 pour la partie confection des lavages. Et ensuite, on a sur le rang 2, du coup, quelques fournisseurs aussi en direct puisqu'on va travailler à façon. Donc on va avoir une relation en direct avec ces fournisseurs-là de tissus. Et donc pour toutes ces usines avec lesquelles on travaille en direct, on va les auditer socialement via justement le référentiel ICS. Et ça va être une note qui va aller de A à E avec un pourcentage. Et donc, on va aller auditer, donc avoir une photo à un instant T de ces usines-là sur les conditions de travail. Et ça va nous permettre ensuite de mettre en place un plan d'accompagnement si jamais il s'est possiblement des non-conformités ont été relevées. Donc on va, avec l'équipe RSE, suivre ce plan d'action correctif, suivre les améliorations et ensuite relancer des audits si jamais il y a eu des non-conformités pour pouvoir vérifier que tout a été corrigé. Donc ça, c'est pour la partie sociale. Donc on le fait sur toutes les usines et on considère que ces audits-là sont valables pour une durée de 2 ans. Mm-hmm. Sauf si effectivement il y a eu des non-conformités. Là, on va mettre des délais en place pour la correction. Et sur la partie environnementale, on va plutôt auditer les usines qui ont un procédé à voie humide parce que c'est là où le risque est le plus élevé. Donc tout ce qui va être des lavages, teinture et impression. Et encore une fois, on va le faire sur nos usines en direct. Et là, encore une fois, on va avoir un audit, donc une photo à un instant T, qui va nous permettre de savoir quelles sont les priorités pour les corrections. Et encore une fois, on va accompagner les usines dans cette mise en conformité. Et là, depuis 2 ans, on a forcément continué à tracer la chaîne d'appro. Donc on commence à avoir plus d'informations sur le rang 2 indirect, donc nous on l'appelle rang 2 indirect, et le rang 3 indirect. Et ça nous permet justement de mettre en place un peu un management des risques, donc de se dire sur toutes ces usines-là qu'on a réussi à tracer, lesquelles ont plus de risques au niveau social et ou au niveau environnemental, que ce soit par rapport au pays, que ce soit par rapport au process de production, etc. Et du coup, on va aller lancer des audits comme ça, en fonction du risque qu'on a identifié dans les usines, pour s'assurer des conditions de travail. Et pour refaire le lien aussi avec ICS, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est qu'on peut mutualiser en fait les audits qui sont lancés. Donc par exemple, si on lance un audit et que cette usine-là est aussi utilisée par une autre marque, elle aura accès aux mêmes informations que nous. Et ça permet aussi aux fournisseurs de pouvoir mettre en avant leurs conditions dans les usines.
J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à télécharger le rapport RSE dans lequel il y a énormément d'infos sur la cartographie des fournisseurs, des différents rangs. Enfin, tout ça est hyper bien expliqué et aussi avec un effort d'humilité, à savoir on en est là et il nous reste encore tant à découvrir. Je pense que c'est une vraie force dans l'approche de la CSRD et d'autres mesures réglementaires. C'est un travail de traça que vous avez déjà fourni en amont de celui qui va être fait, j'imagine, un prestataire peut-être technique X qui arrivera par la suite. Mais c'est pas du travail perdu, en plus d'informer les clientes finales. Julie, c'est à vous. Vous êtes, je pense, une illustration parfaite à la fois de la fidélité à l'entreprise, aussi de la façon dont les collaborateurs peuvent être à l'initiative de propositions de transformation. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter tout simplement et nous présenter un peu votre parcours ?
Alors, donc, moi, je suis styliste de formation. J'ai fait mes études à Esmode de Roubaix, puis Paris. J'ai commencé chez Promode début 2003 en tant que styliste junior. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte pour une autre boîte textile. J'y suis restée presque 3 ans. Et puis, au bout de ces 3 années, j'ai eu un vrai manque, je dois dire. Enfin, ça m'a appris beaucoup sur ce que je ne voulais plus, ce que je ne voulais pas et ce qui me manquait profondément. Et effectivement, il y avait toute l'approche fournisseur, travailler avec des modélistes, travailler, comme l'expliquait Juliette, la partie façon, pouvoir manipuler des tissus, enfin voilà, toute cette partie-là qui me manquait beaucoup, plus la partie humaine, j'avoue. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé la responsable de la centrale d'achat de l'époque pour savoir s'il y avait une place. Et il s'avère qu'il y avait une place. Et donc c'est assez naturellement et très simplement que je suis revenue chez Promode. Donc en 2009, en tant que styliste senior sur l'accessoire. Et puis après, ça s'est enchaîné super vite parce que c'est vrai que c'est une chance aussi chez Promode de pouvoir assez facilement évoluer ou bouger, en tout cas changer de rayon. C'est une super école pour apprendre. Donc j'ai fait du denim, de la robe et du pull pendant 7 ans. Jusqu'à 2019 où en fait on a créé la cellule essentielle. Donc où on a répertorié tous les intemporels du vestiaire au sein d'un rayon. Donc avant ils étaient travaillés par les équipes et là ça a été mis à part pour un souci aussi je pense de vouloir bien les travailler, prendre le temps de dédier une équipe à ça et de se dire effectivement sur l'aspect, il y avait cette notion de désirabilité et de durabilité. Moi, j'aime bien parler de durabilité aussi émotionnelle parce que quand on aime un produit, on a envie qu'il dure. Parfois, on a envie de le transmettre. Et voilà, ça peut être un produit, comme disait Julien, un denim bleu basique. En fait, on n'a pas besoin de réinventer la poudre. Il faut juste travailler vraiment sur la partie qualité, le sourcing matière, les coupes. Donc voilà, il y a un vrai travail qui a été fait sur cette partie-là.
Et alors, en 2019, donc on est aux prémices de l'éco-conception chez ProMode. Et vous, vous avez été là à la genèse de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment c'est passé en interne, au sein des équipes ?
Oui, mais alors en fait, je pense que, étant sur les essentiels, mon regard aussi a un petit peu changé de par les recherches que j'effectuais effectivement pour la partie produit. Je me suis ouvert à plein d'enseignes, plein de choses que je regardais peut-être pas ou moins ou différemment avant. Et en 2019, donc effectivement, il y avait ces workshops écologie. Moi, ça m'a tout de suite intéressée. Donc en fait, c'est venu vraiment d'une bande de collab hyper motivés, engagés, et puis qui avaient envie de se bouger dans la transformation de l'entreprise et dans ce beau projet RRSM. Retail responsable sur mesure. Donc, on s'est effectivement retrouvés lors d'un workshop. Et puis, l'idée, c'était, avec tous ces collabs volontaires qui s'étaient inscrits, de lâcher des idées, de se dire à quoi je pense pour ProMode, qu'est-ce qui pourrait être utile, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et donc, le projet éco-conception est venu de là. Et donc, de 6 personnes engagés, qui étaient donc volontaires pour travailler sur ce projet. On a effectivement, en plus des métiers différents dans cette équipe, on a une modéliste, on a une acheteuse, on a des gens de la qualité et de la RSE et le style. Donc c'est aussi très riche parce que c'est une vision un peu 360 et chacun amène sa force, chacun amène son expertise métier. Et c'est vrai que pour nous, l'éco-conception, en tout cas, c'est un vrai constat où on a besoin d'être ensemble autour du produit. Chacun vient avec ses contraintes ou une idée, enfin voilà, pour aller dans le bon sens.
Et vous étiez là au moment donc de la redéfinition de l'offre, de vraiment quel est l'ADN de nos produits et qu'est-ce qu'on va garder finalement et qu'est-ce qu'on écrème parmi le 20%, je crois, de références que vous avez supprimées. Comment est-ce que vous avez procédé sur cet arbitrage ?
L'arbitrage, il a commencé il y a déjà quelques années où je pense qu'il y a eu un besoin de remettre à plat aussi, je pense, au fur et à mesure, les identités de la marque, enfin l'identité de la marque. Et donc de se dire, ce produit, aujourd'hui, par rapport aux attentes et par rapport à l'identité, il ne coche pas les cases. C'est un choix de ne pas y aller, au même titre que parfois il peut y avoir une tendance et on décide de ne pas y aller parce que ça ne matche pas avec notre identité. Donc c'est des vrais choix qui ont été faits. Parfois même, et je me souviens de produits, on s'est dit, on sait que c'est un bon produit, mais on décide qu'on l'enlève et on ne le fait plus parce qu'en fait, il ne correspond pas à ce vers quoi on veut aller, aussi bien en termes de tendance, d'écriture, que de peut-être engagement, en tout cas au sens large. Et puis après, machinalement, je pense que c'est depuis quelques années, comme le disait Julien, on réduit. Et en fait, c'est pas parce qu'on réduit qu'on fait moins. Enfin, c'est pas perçu comme moins. On fait différemment. Les paramètres sont différents. On pense bien à la cliente. On fait beaucoup de questionnaires. On a quelqu'un en interne qui s'occupe de questionner le réseau et la cliente. Donc, on récupère énormément d'informations.
Je veux bien qu'on détaille. Est-ce que c'est en amont de la création d'un produit ? Est-ce que c'est pour un produit existant sur le retour de l'expérience client ?
Ça peut être les deux. En fait, on a quelqu'un qui fait des analyses régulières à chaque saison ou de manière, si on demande ponctuellement sur une opération commerciale, on peut vraiment avoir de la data. On a aussi des questionnaires qu'on peut... Alors, on a aussi un petit outil interne de communication avec les magasins. Si on a une question sur un produit, hop, on envoie un petit message. On a des référentes magasins qui sont rattachées au chef de produit. Donc, il y a vraiment des liens qui existent avec le réseau et qui nourrissent du coup notre cahier de besoins.
Je reviens sur les questionnaires. Vous avez des grosses bases emailing, je crois, elles sont différenciées. C'est votre canal de communication principal avec la cliente finale quand vous proposez des questionnaires, c'est ça ?
Oui.
Oui, c'est ça. Effectivement, on a une base de clients contactables qui est importante. On a des clients très fidèles et un taux de réponse qui est relativement important. Donc, on n'hésite pas à poser des questions. On avait même créé une petite communauté de makers avec une plateforme qui s'appelait YouMakePromod et qui nous permettait d'être en lien direct avec ces clientes-là. Cette plateforme n'existe plus, mais on a gardé ce contact avec nos clientes les plus fidèles pour les questionner. Et puis, comme disait Julie, on a relancé de manière assez active, là, depuis une année maintenant, des tables rondes clientes au siège pour les faire réagir sur les produits, les écouter en physique même. Donc, il y a à la fois les sondages via emailing, mais aussi des tables rondes physiques.
Et alors, il y a d'autres canaux de communication hyper intéressants en interne qui, et de formation sur lesquels peut-être on peut développer. Vous avez une app interne. Comment est-ce que ça fonctionne ? Elle concerne qui et qu'est-ce qu'on échange dessus ?
Alors, on a une application, donc la plateforme, où on peut en fait retrouver plein de petites capsules. Elles sont plus ou moins courtes en fonction du sujet. Elles sont dédiées beaucoup au réseau, puisque les magasins ont besoin d'informations et ils n'ont pas le temps ou pas d'accès, en tout cas, à leur boîte mail. Donc, ça permet d'avoir des informations assez simples. À la base, c'est vraiment pour de la formation. Et parfois, c'est de l'information. Donc, il y a un peu des deux. Donc, c'est vraiment à destination du réseau, mais aussi de tous les collabs, puisqu'on a un accès, enfin, chaque collaborateur a accès à cette plateforme. Et ça permet, donc, il y a parfois des petites capsules obligatoires, entre guillemets. On se dit, avant telle réunion, allez consulter la capsule. Comme ça, vous venez, tout le monde a le même niveau d'information quand on arrive au workshop ou au séminaire. Et après, sinon, c'est un petit système de points. Bon, voilà, c'est un peu ludique. On voit qui a confié
la formation continue. Ouais, ouais. Mmh.
Et donc, on a quelqu'un qui travaille sur ces capsules. Et effectivement, il y a des mises à jour assez régulières. Et puis voilà, c'est une mine d'informations qu'on peut consulter à tout moment.
Et alors, en ce qui concerne la formation à l'éco-conception, j'ai entendu parler de Fish and Tips, si je ne dis pas de bêtises, et d'ateliers. Est-ce qu'on peut aussi illustrer vraiment concrètement de quoi il s'agit, comment ça se passe en physique pour les ateliers ?
Alors effectivement, vous parliez de Fish. Donc le point de départ de ce groupe éco-conception, c'était de réaliser des petits tips, des fiches à destination des équipes.
Les Bristol, du bac.
Je vois bien. Des petites fiches en leur disant qu'est-ce que l'éco-conception, et puis les bonnes pratiques, des informations sur les matières. Voilà. Et puis en fait, on s'est tous renseignés, on a cherché des infos, puis le responsable RSE de l'époque, je balance un peu, nous a dit, mais tiens, c'est pas mal, vous pourriez peut-être aller un cran au-dessus. Ah d'accord, donc on va faire un petit guide pratique. Ah bah oui, donc on a fait réaliser un petit guide pratique d'une cinquantaine de pages, où là, qui est guidé sur, qui suit un peu tout le cycle de vie, et par étapes, on a fait tout un pavé sur les matières, sur la confection, enfin vraiment, très 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 riche. Et puis là, on s'est dit, mais en fait, on ne va pas demander aux gens de lire les cinquantaines de pages. Donc on s'est dit, allez, bingo, on y va, et on va animer des formations auprès des collaborateurs. Donc à nous six, on a travaillé un premier format de formation qu'on a fait là, pour le coup, en présentiel, en live, avec des groupes de personnes maxi 15, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une formation dynamique, avec de l'échange, pas un truc trop descendant. Donc, on a effectivement des petits quiz. Enfin, c'était assez ludique. On a formé beaucoup, beaucoup de personnes. On a eu pas mal de sessions, et on a commencé les sessions en 2021, si je ne dis pas de bêtises.
2022 ou 2021.
2021, je crois.
Possible.
Et effectivement, donc assez ludique, avec des cas pratiques à la fin. Parce qu'à la fin de la formation, on présentait cet outil, donc interne, qui a été travaillé. Et l'idée, c'était de pouvoir déjà que les équipes se l'approprient en live pendant la formation. On était répartis par petits groupes de personnes. Et effectivement, on était au minimum trois formateurs à chaque formation pour pouvoir justement les accompagner. Et ils se sont tous pris au jeu. Donc c'était assez amusant et très riche aussi pour nous de voir un peu le niveau de connaissance des collaborateurs sur ces sujets-là. Y en a qui étaient déjà très intéressés, d'autres novices. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, ensuite, on a fait la capsule de formation, donc à destination des magasins. Sur cette partie formation, on a vraiment formé tous les collaborateurs de l'offre. Donc depuis 2021, enfin depuis les premières sessions, on a refait une dernière session là début 2023 pour les nouveaux arrivants et puis ben, ceux qui avaient envie de faire un petit refresh, sachant que le support aussi évolue en fonction de l'évolution de la grille. Et on a aussi formé une grande partie des collaborateurs de la direction client et du stock management, du marketing, du merchandising pour pouvoir justement diffuser un peu le même message et que ben, les gens de la com ou du marketing sachent où on en est à l'offre et ce vers quoi on va pour pouvoir tous, encore une fois, avoir le même niveau d'information.
Hyper intéressant parce que si on part du principe que les valeurs fondamentales reposent sur le produit, tout le monde est concerné par le produit chez Promode, y compris la comptabilité. Et ce sont aussi les ambassadeurs de la marque en premier. Donc, globalement, c'est oui, faire infuser ces valeurs d'entreprise, ça participe à la marque employeur. Enfin, c'est, j'imagine, tout bénef. En revanche, il faut quand même faire un petit arrêt sur image et réaliser que vous êtes styliste et vous parlez du fait d'avoir fait sur votre temps de travail ou temps libre, du fait de votre motivation et du backup de vos employeurs, des fiches et des formations à l'usage de l'ensemble de l'entreprise. Ce qui est quand même... je pense que ça mérite un petit temps de pause pour avoir conscience de l'originalité, on va dire, du procédé.
Un petit grain de folie.
Ben, en tout cas, transformateur, aujourd'hui, donc vous sortez la grille d'éco-conception, parce que non seulement vous formez les collaborateurs chez Promode, mais en plus, vous vous attaquez à la transformation de l'industrie at large, en ayant pour ambition de mettre cette grille en open source, en fait, en accès libre à l'ensemble des autres entreprises, certaines avec lesquelles vous avez collaboré. On en parle depuis tout à l'heure. C'est quoi concrètement la grille d'éco-conception ?
Alors la grille d'éco-conception, c'est un fichier Excel déjà. Donc on a fait avec un outil assez simple et à disposition. Et en fait, c'est un outil qui permet de rentrer les caractéristiques du produit donc sur toutes ces étapes de cycle de vie, matière, confection, fabrication, utilisation, logistique, etc. Et qui, grâce à toutes ces caractéristiques, va pouvoir ressortir un pourcentage qui permet d'identifier si le produit est éco-conçu ou s'il ne l'est pas. Et en fait, on avait une première version de la grille du coup aux premières formations et qu'on a voulu optimiser par rapport au retour d'expérience de tous les collaborateurs qui avaient commencé à l'utiliser. Aussi des retours d'expérience d'autres marques, parce qu'effectivement, on a pris contact avec d'autres marques pour être sûr qu'on allait dans la bonne direction, qu'on avait les bonnes pratiques, tout simplement. Et on a aussi voulu que notre grille, elle soit de plus en plus proche de l'affichage environnemental de demain, et du coup d'inclure de plus en plus de leviers qui allaient se rapprocher potentiellement de l'affichage. Donc pour la construire, on a vraiment toute cette liste de critères qui ont été pondérés, du coup de 1 à 5. On les a pondérés par conviction et par l'expertise du coup de ces métiers qui ont été représentés dans le groupe Éco-Conception. Et on a aussi utilisé un outil d'ACV pour s'assurer qu'effectivement les impacts étaient bien réels en fonction des leviers et de la pondération qu'on avait associée. Et on a essayé aussi de garder une certaine cohérence et en catégorisant en fait ces leviers. Donc on en a 37 si jamais on a 3 tissus différents dans le produit. Et ces 37 leviers, en fait, on les a catégorisés sous 5 catégories. Matières premières, fabrication, confection, logistique et utilisation. La fin de vie, elle va plutôt se retrouver dans les matières premières. Et en fait, on a essayé d'avoir une pondération rationalisée par étape pour être sûr qu'on était en cohérence par rapport aux faits scientifiques sur les impacts. C'est-à-dire qu'on le sait, par exemple, la matière première va avoir plus d'impact que l'utilisation. Et du coup, d'avoir dans notre pondération assez d'impact et assez de pondération sur la matière première que sur l'utilisation.
De façon hyper concrète, pour que ce soit un peu illustré dans la tête de nos auditeurs et nos auditrices, si on prend un produit basique, on va dire un t-shirt ou un produit un peu plus complexe avec des pièces de mercerie, vous pondérez pour chacun des composants les critères que vous venez d'évoquer. Et ça prend par exemple en compte jusqu'à la part du mix énergétique, j'ai cru comprendre, donc vraiment de façon assez poussée sur les différents rangs dans la note globale du produit.
Ouais, c'est ça. En fait, on a voulu quand même avoir un outil assez simple d'utilisation pour pouvoir être utilisée par toutes les équipes de développement produit, mais qui essayait de s'allier au maximum vers l'affichage, mm-hmm. mais sans être trop technique. Mm-hmm. Et du coup, voilà, on a ces questions sur les matières, par exemple, bah, la composition déjà de base de la matière première, enfin, le tissu principal, le tissu secondaire. Des questions sur est-ce que ces matières elles vont être monomatières et donc faciliter la recyclabilité. Est-ce que je vais avoir plus de 3% d'élastane et du coup ça va détériorer la recyclabilité aussi de mon produit. Des questions sur les fournitures, est-ce qu'elles sont fonctionnelles, si oui, est-ce qu'elles sont amovibles, donc, pareil pour faciliter la recyclabilité du produit. Sur la partie fabrication, on va avoir toute la partie effectivement où a été tissé mon produit, tricoté, teint. Confectionner et on va associer des mix énergétiques effectivement aux pays qui vont être associés à la question. Et bah, en fait, il faut savoir que le mix énergétique, c'est donc chaque pays a un peu son mix énergétique qui est donc plus, une énergie plus ou moins carbonée en fonction des sources d'énergie. Et donc, on a voulu vraiment mettre ça en avant parce que c'est ce qui va être pas très impactant sur la partie affichage. Mais par contre, on a voulu aussi contrebalancer avec des fois des usines qui avaient leur propre source d'énergie renouvelable, qui était potentiellement dans un pays avec un mix carboné. Mais voilà, essayer un peu de contrebalancer avec des bonnes pratiques dans les usines directement.
Donc dans mon fichier Excel, en face de mon produit, il y a les étapes et des critères à choix variables. Et à la fin, une note globale. Ça sous-entend que vous avez l'ensemble des informations, la teinture, la filature, le tricot, etc. Comment ça se passe quand vous ne les avez pas? Est-ce qu'il y a un malus quelque part ou en tout cas un point d'interrogation qui fait qu'on ne peut pas noter un produit?
Oui, tout à fait. En fait, donc effectivement, il y a des questions qui vont être vraiment binaires. Donc, c'est oui, c'est non ou c'est non applicable si jamais mon produit n'en a pas. Et du coup, qui vont donner les points ou qui ne vont pas en donner. Et après, il y a des questions plutôt à choix multiples, donc avec les fameux pays. Et c'était ça aussi l'objectif, c'était que les acheteurs chefs de produits aillent de plus en plus creuser et prendre connaissance de leur parc fournisseur et des usines qui produisaient. Et donc, on a aussi créé un fichier d'interrogation un peu pour nos fournisseurs, donc avec un peu tous les éléments dont on avait besoin pour que les acheteurs chefs de produits puissent remplir la grille. Et il y a quand même cette possibilité de dire « je ne sais pas ». Mais par contre, effectivement, le « je ne sais pas » va être comptabilisé. Exactement.
Et il y a à côté de ça des no-go sur des produits. Est-ce qu'il y a des critères qui sont rédhibitoires?
Oui, on a des critères effectivement qui sont obligatoires. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas activés, le produit ne pourra pas être éco-conçu. Même s'il a une super note au final, ces critères-là vont être vraiment rédhibitoires.
Par exemple?
Par exemple, on doit avoir au moins 20% de matière dite moins impactante au sein du produit. On doit aussi avoir des tests de qualité qui vont être validés par le service, un audit ICS qui va être aussi validé par le service RSE, pas d'avion entre la partie confection et le dépôt. Si on a du délavage, il faut qu'il soit au moins réalisé avec une technologie moins consommatrice en eau. Et on a aussi la partie efficience, donc c'est les pertes de tissus au niveau du plan de coupe qui a un certain seuil. Ça va être des seuils différents par typologie de produit. Par exemple, pour le t-shirt, on est à 80%. Pour la robe, on va être à 75%. Donc, ça permet aussi
d'optimisation de perte sur la découpe, c'est ça?
Oui, exactement.
Et ça, alors peut-être Julie ou Juliette, je ne sais pas qui veut répondre, mais comment ça se passe en pratique dans la conception d'un produit? Est-ce que tous les produits doivent passer par cette grille d'éco-conception? Et est-ce que s'ils ne remplissent pas les critères jugés suffisants, en regard de vos KPI, justement, tant de quantités de produits chez Promode doivent être éco-conçus, on transforme le produit en amont. Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, alors, pour répondre à la question, est-ce que chaque produit doit passer dans la grille? Par principe, oui. Après, forcément, comme il y a des critères obligatoires, la chef de produit ou acheteur se dit, ben voilà, ces critères-là, je ne les ai déjà pas et je ne vais pas y arriver. Donc, clairement, il faut aussi savoir mettre son énergie au bon endroit. Par contre, effectivement, dès qu'elles savent dans les équipes qu'elles ont un produit qui, effectivement, déjà a 20% de matière moins impactante qu'elles voient, les critères, on va dire, obligatoires sont là. Oui, les équipes passent donc ce qu'on appelle le produit dans l'outil Excel et en fonction du résultat, effectivement, le résultat est plus ou moins loin. Si c'est trop loin et qu'elles voient déjà de leur côté qu'elles n'ont pas de levier à activer, soit elles décident de transformer vraiment le produit pour pouvoir repasser le produit et se dire ben, je vais peut-être y arriver ou pas, il faut être aussi humble et on ne peut pas gagner à tous les coups, c'est un long chemin. Et puis sinon il y a la bonne surprise, c'est que le produit est éco-conçu direct et ça c'est super, elles sautent au plafond, elles sont trop contentes. Et après, sinon, il y a l'option, effectivement, je suis vraiment tout près du but et il faut que j'actionne quelques leviers, auquel cas, et de toute manière, elles savent que les six personnes de l'équipe éco-conception, on est à dispo pour elles, on s'est divisé en binômes et on assure vraiment tout le suivi des équipes. Donc là, elles peuvent travailler avec leur référent d'éco-conception pour voir quel levier est activé. Et parfois, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qu'on a appris aussi des formations, c'est que parfois, elles étaient surprises, notamment sur la partie transport et tout ça. Il y a toujours des surprises sur les impacts. Mais ce qu'on leur a expliqué, c'est que ce n'est pas un impact. C'est plein de petits leviers additionnés qui font qu'on y arrive. Donc c'est vraiment le message qu'on leur passe, c'est « baissez pas les bras ». Ça vaut le coup, il faut tenter, on ne gagne pas à chaque fois. Et après, il faut être exigeant et persévérant. Et puis, l'importance aussi, c'est d'anticiper. Et ça, c'est un message qu'on leur passe régulièrement depuis la formation. C'est penser à, dès que vous pensez au produit, dès que vous avez un proto et qu'il est en passe de validation, faites l'essai. Tout de suite, parce que le fournisseur, on apprend effectivement quand on les questionne. Bah tiens, ce fournisseur, je ne savais pas qu'il avait de la biomasse, parce que c'est des questions qu'on ne posait pas avant. Donc aujourd'hui, tout ça fait que y a plein de choses qui évoluent. Et les équipes, effectivement, maintenant, ça éveille aussi plein de choses au sein des équipes.
C'est marrant parce que la stratégie de petits pas appliquée à un produit, on pourrait dire exactement la même chose de l'entreprise au global quand on nous entend. Et donc, d'après ce que j'entends, il n'y a pas de frustration associée à cette éco-conception dans la partie développement produit. Ou est-ce que ça arrive parce qu'on est contraint, qu'on n'a pas la couleur qu'on veut, qu'on n'a pas la matière qu'on veut, ou bien les équipes sont plutôt enjaillées par le challenge?
Alors, il y a eu des frustrations au démarrage, on ne va pas se mentir, avec les premières versions de la grille, où effectivement, chaque famille de produits était un peu sur le même niveau. Et on se rend bien compte que pour un manteau et une veste où les composants sont multiples, c'était vraiment complexe d'aller cocher toutes ces cases. Et c'est en ça où il y a eu des versions retravaillées, en écoutant bien chaque équipe, chaque chef de produit, chaque acheteur, pour récolter toutes les informations. Et ensemble, effectivement, on a décidé avec l'équipe de co-conception de revoir un peu les seuils et d'adapter. Donc il y a eu de la frustration, mais après, très vite, quand on a eu la nouvelle grille mise à jour, en fait, on s'est rendu compte, je prends l'exemple de la veste, on a eu trois vestes éco-conçues dans la foulée. Et en fait, la chef de produit était super contente parce qu'elle me disait « Ah, ça y est, j'y arrive enfin !» Et c'est motivant. C'est vrai que ce côté « faut pas baisser les bras », c'est hyper important. Et il y a de la frustration parfois. On entend des petites négos, mais on reste exigeant par rapport à l'outil, par rapport à la grille et justement à notre objectif. C'est de dire « oui, ça passe pas à un point, mais ça passe pas. »
Et alors, en pratique, ça s'accompagne, j'imagine, de logiques d'investissement qui sont très différentes, que ce soit dans l'achat des matières, la manière de produire, on a parlé des volumes aussi. Comment est-ce que du côté vraiment de décisionnaire et notamment de l'actionnariat, est-ce que vous avez eu à convaincre? Est-ce que vous avez eu un plan de financement de cette stratégie d'éco-conception qui est soit incrémentale, soit carrément anticipée en disant « Ok, on va de toute façon mettre une enveloppe sur la table parce que ça va nous rapporter à long terme ». Comment est-ce que vous l'avez organisé de votre côté?
Moi, j'ai fait un petit travail de pédagogie auprès de la famille actionnaire autour de notre projet d'entreprise dont on a déjà parlé plusieurs fois, le retail responsable sur mesure, avec ces trois mots-clés qui sont moins, mieux et plus durable. Et ce pivot de passer d'un business model de masse à ce business model de précision, on parlait des petits pas, c'est ça, hein, c'est vraiment depuis 5 ans, on travaille là-dessus pour préciser vraiment chacune de nos actions et faire en sorte qu'il n'y ait pas un produit qui soit gratuit dans la collection, qui ne serve pas vraiment le propos qu'on souhaite exprimer à nos clientes et qui ne soit pas acheté de la manière la plus juste possible. Ça implique de faire des choix. On a parlé de la réduction du nombre de références, réduction du nombre de pays, etc. Là, aujourd'hui, on a enfin les fruits de tout ce travail de fond avec, j'ai dit, aujourd'hui, Promode, c'est 370 millions d'euros dans 400 magasins. Sur l'année 2023, c'est une progression de chiffre d'affaires de plus 1,2%. C'est pas beaucoup, mais on a réduit un petit peu le nombre de magasins. Mais c'est moins 3% de quantité par rapport à l'année dernière. Et en revanche, c'est plus 4% de volume de marge. Ça veut dire qu'on fait de la progression de chiffre d'affaires en vendant des produits un petit peu plus chers, mais parce qu'on a limité fortement la promotion. En fait, les produits ne sont pas beaucoup plus chers en tant que tels, mais on applique juste un peu moins de promotion. Et surtout, eh bien, avec moins de volume, on arrive à faire plus de marge. Et tout ça, dès 2019, la décision un peu radicale de dire bah non, plus de Black Friday chez Promode, par exemple. On fait plus de grandes périodes de braderie hors des soldes, vraiment en masse, mais on va plutôt choisir de faire de la promotion très ciblée, plutôt en récompense pour nos clients fidèles, donc en lien avec le programme de fidélité, etc., plutôt que des French Days, comme on les connaît, etc., où on applique des taux de promotion globaux sur l'ensemble de la collection. Donc voilà, tout ça fait qu'on redonne de la valeur à notre produit et on pilote nos stocks vraiment au plus juste. Et l'aboutissement, donc c'est un peu plus de chiffre à l'affaire, moins de volume, plus de marge. Et au final, des stocks résiduels de fin de saison qui sont extrêmement bien tenus parce qu'on était déjà autour de 3% ces dernières années. Et là, sur la dernière saison hiver, on atteint 2% de stocks résiduels, donc juste après les soldes, ce qui est vraiment, je pense, très, très performant dans notre secteur.
Et l'histoire du Black Friday aussi, on mentionne comme si de rien n'était, mais c'est aussi un vrai statement, une posture
très
forte.
Alors effectivement, c'était...
C'est beaucoup de volume de chiffre d'affaires sur un jour qui potentiellement part en fumée. Et c'est une décision qui a été prise par certaines marques, mais pas tenue dans la durée.
Ouais. Et en fait, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de pire, de prendre cette décision-là et de ne pas la tenir dans la durée, parce que quand on prend ce type de décision, bah, l'année suivante, on a une sorte de gueule de bois, hein, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas sur nos objectifs et c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, l'historique est à nouveau relissé et nous, on a remarqué que le chiffre d'affaires qu'on ne faisait pas à ce moment-là, il se réétalait plutôt naturellement sur les semaines qui suivent ou sur les semaines précédentes. Et quand on ne tient pas cette position-là, ben on recrée un historique qui est difficile et donc on remet le doigt dans l'engrenage. Enfin, c'est un peu comme quand on essaie d'arrêter de fumer, quoi. Il ne faut surtout pas y retoucher.
Il y a une dévaluation de la valeur perçue du produit aussi qui, je pense, est énorme. Vous avez choisi de donc partager cette grille dans un temps 1 pour avoir des retours d'expérience de marque qu'on peut-être mentionner si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces marques et de leurs retours?
Oui, du coup, entre effectivement la V1 et la V2, on a décidé d'interroger plusieurs marques. Donc il y avait Petit Bateau, Eram et Decathlon. Parce qu'on voulait être sûr déjà d'aller dans la bonne direction, on voulait être sûr de potentiellement modifier dans le bon sens notre grille. Il faut savoir, certaines de ces marques sont quand même beaucoup plus avancées que nous, surtout en matière d'éco-conception. Et du coup, c'était hyper enrichissant de pouvoir récupérer les bonnes pratiques des uns. Mais il faut savoir que les bonnes pratiques ont été dans les deux sens et que ça a permis vraiment d'enrichir la démarche et d'avoir vraiment quelque chose de collaboratif. Donc ça, c'était hyper, hyper enrichissant pour nous et j'espère pour eux aussi. Et on a aussi, il n'y a pas longtemps, fait une petite présentation de la V2 dans un groupe de travail avec plusieurs marques. Et du coup, les retours étaient aussi hyper positifs. Alors, il y a aussi des limites qui ont été mises en évidence. Et bon, on le sait, de toute façon, l'outil n'est pas parfait. Et c'est aussi pour ça qu'on veut le mettre en open source et pour entamer aussi une discussion autour de ça.
C'est possible d'avoir le détail sur les points positifs et les limites qui ont été remontées sur ces versions?
Sur les points positifs, il y a quand même la prise en compte de tous les mix énergétiques, ouais. La partie simple de l'outil, accessible pour les équipes opérationnelles. Donc ça a été bien mis en évidence. Le côté formation, sensibiliser les équipes, ils étaient assez inspirés par ce qu'on avait réussi à faire en termes de formation et de pouvoir embarquer aussi tous les collaborateurs. Donc ça a été perçu plutôt positivement. Et sur les limites, y a aussi la partie mix énergétique, encore une fois, où on ne prend pas en compte aussi toutes les sources d'énergie de l'usine en tant que telle. Parfois, elles utilisent du charbon. Enfin, voilà, il n'y a pas tout qui peut être pris en compte. Sur la partie recyclabilité, on a pas mal de critères qui vont être dedans, mais on n'est pas sûr de la réalité opérationnelle et des filières derrière. Donc voilà, pour en citer quelques-uns.
Et donc, concrètement, cet outil aujourd'hui, il est disponible où et quelles sont les conditions pour l'utiliser ?
Alors l'outil va être disponible sur du coup le site web de Promode. Donc on a un onglet mode durable à l'intérieur de laquelle on a une page dédiée à l'éco-conception. Donc on va mettre à disposition ici des explications déjà aussi sur l'outil, comment il a été construit, donc un peu tout ce qu'on a dit, mais avec des mots écrits. Et il y aura du coup un lien qui ira vers un formulaire où il faudra juste donner son nom et son adresse mail. Et en fait, l'équipe éco-conception va directement recevoir les notifications de demande et envoyer la grille avec notre adresse du coup éco-conception pour pouvoir justement avoir ce point de contact aussi avec les personnes qui veulent utiliser, regarder un peu la grille. Et ce qu'on veut, c'est vraiment entamer un dialogue. Donc c'est pour ça qu'on préférait mettre à disposition l'outil via un contact, un formulaire de contact. Et il y aura aussi sur LinkedIn des liens qui vont se faire là-dessus.
Je mettrai dans les notes de l'épisode et l'article associé. Julie, en pratique, si je suis designer produit chez une marque et que j'ouvre cet outil, qui, pour l'avoir vu, est un peu impressionnant, enfin très bien fait, mais malgré tout à prendre en main, qu'est-ce que vous conseillez pour s'y former et par quel produit on commence? Est-ce qu'il y a des tips?
Alors déjà, l'outil sera envoyé, mais on a aussi toute une information qui accompagnera donc c'est l'envoi. Aussi, bon, comme on l'enverra de notre boîte mail éco-conception, la personne pourra tout à fait nous solliciter et on essaiera au maximum de répondre aux questions. Ensuite, en l'ouvrant, donc oui, c'est un peu impressionnant. Bon, c'est un Excel, il a des jolies couleurs. Mais effectivement, c'est le nombre de questions peut être impressionnant. Je conseillerais déjà de bien le lire dans son intégralité, de faire attention à la formulation des questions, puisque c'est vrai que parfois, ça peut porter à confusion. Et de prendre le temps, effectivement, si on a un produit, il faut déjà s'assurer qu'on ait bien toutes les informations pour répondre au questionnaire, enfin à l'outil. Je conseillerais de commencer par un produit basique, enfin en tout cas simple. Effectivement, si vous commencez déjà peut-être avec un manteau ou une veste, comme on disait, c'est des produits plus complexes. En tout cas, pour se faire la main dessus, je trouve que commencer par du t-shirt, par du pull aussi, ça peut être intéressant puisque la grille est vraiment adaptée à chaque famille de produits. Donc il y a bien un onglet où vous choisissez la typologie de produit. Tout ça, c'est. Je commencerai en tout cas par un produit assez simple. Et puis, mais effectivement, important d'avoir toutes les informations et de bien questionner son fournisseur en amont pour pouvoir le remplir sereinement.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez établi pour les 2, 5, 10 prochaines années des objectifs sur la part d'éco-conception dans les produits, la part de produits, enfin le pourcentage de produits éco-conçus selon votre définition chez Promode, on a parlé du nombre de références aussi. Est-ce que c'est globalement une pente décroissante? Est-ce que ça va se stabiliser?
Alors, sur la partie de produits éco-conçus, aujourd'hui, ce qu'on demande aux équipes, c'est d'avoir 3 produits éco-conçus par saison et par famille de produits. Bien sûr, quand un produit est éco-conçu une année, l'année suivante, il ne compte plus dans le compteur. Hein. Il doit rester. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. C'est qu'un produit qui a été éco-conçu, s'il est refait la saison d'après ou l'année d'après, je pense notamment au basique, il faut qu'il le reste. C'est un peu comme le Black Friday. Enfin, ce serait dommage de lâcher. Donc, c'est là aussi, chaque saison, il y a besoin de renégocier avec les fournisseurs, de bien se reposer. Et puis, pour l'instant, on est à 3 produits par saison, par famille.
Et si je peux rajouter, on est aussi convaincu qu'avec l'affichage environnemental qui va arriver, finalement, va y avoir une certaine fusion entre la démarche d'éco-conception qu'on a entamée et ce qui va arriver avec l'affichage environnemental. Et on ne sait pas encore de quelle manière ça va fusionner, mais potentiellement, les objectifs qu'on se mettra à long terme, donc 3 à 5 ans, ce sera plutôt lié à la partie affichage environnemental qu'à la partie grille interne d'éco-conception.
Oui, avec en parallèle ce qu'on disait sur le devoir de vigilance et la CSRD et sur ces questions-là. Donc, est-ce que vous... Parce que vous avez aussi la particularité d'avoir développé ces outils en interne, là où, et c'est une très bonne chose, il y a une multiplication des acteurs tech ou services en faveur de l'impact, de la traçabilité et de l'interopérabilité de toutes ces fonctions. Vous avez cette volonté d'être autonome sur ces supports ou est-ce que, notamment... du fait de la mise en conformité réglementaire à venir, vous sentez que vous aurez besoin d'être épaulé?
C'est sûr, on aura besoin d'être épaulé. Et pour le coup, on n'avait pas encore à disposition d'outils sur la partie éco-conception. C'est pour ça qu'on a voulu aussi l'anticiper de notre côté. On était convaincus que c'était là vers quoi il fallait aller. Mais sur la partie affichage environnemental, en fait, c'est tellement aussi technique. C'est des données tellement compliquées en fait, à collecter et à calculer derrière qu'on sera obligé d'être épaulé par des outils. Et justement, là, on est en plein appel d'offres pour trouver le bon outil qui nous accompagnera sur ce sujet.
Appel à tous les takers qui nous écoutent. Et en termes de formation des équipes, est-ce que vous avez des KPI aussi, des objectifs dans certaines autres industries, ça existe, une formation continue obligatoire, le fameux système de points qui, chez vous, est de l'ordre de la gamification, ça peut être aussi obligatoire?
Ça pourrait. Effectivement, aujourd'hui, on est plus sur toutes les personnes. Enfin, il y a un suivi RH, en tout cas, sur toutes les personnes qui suivent la formation éco-conception. Enfin, je veux dire, c'est une formation qui est obligatoire, en tout cas, au moins pour toutes les personnes de l'offre. Et après, on a questionné chaque directeur donc du MPA et de la dire client pour qu'ils nous donnent un peu les listes des personnes qui devaient absolument être formées. Donc, il y a un suivi RH derrière pour s'assurer effectivement qu'on ait bien le tampon formation effectuée. Après, régulièrement, ça peut être deux fois par an, on fait des petites relances et c'est ce que je disais, on en a fait là début 2023 pour s'assurer que chaque nouveau collaborateur, même s'il est là pour 6 mois, en fait, c'est cool qu'il puisse faire la formation. Donc après, effectivement, on n'a pas encore, on n'a pas été plus loin, en tout cas, dans cette notion de formation sur l'éco-conception.
Je ne vous tape pas sur les doigts, hein. C'est soit je partage vos bonnes pratiques, soit je vous donne des pistes. C'est au choix. On a abordé très rapidement la question de la responsabilité, de votre responsabilité par rapport aux parties prenantes, à leur transformation, à leur bonne surprise de finalement mon fournisseur a lui-même des panneaux solaires versus l'audit est à revoir à la fois côté social mais aussi environnemental. Quelle est la part de responsabilité que vous prenez en charge? Et je me tourne peut-être vers vous aussi, Julien. Il y a une anecdote Covid que vous m'aviez racontée sur cette question de la fidélité et de la continuité des relations, mais donc la nécessaire transformation de ces acteurs si vous voulez que vos scores continuent de s'améliorer. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Je pense que Juliette et son équipe sont vraiment... au plus proche de nos fournisseurs pour les accompagner. C'est-à-dire qu'on non seulement on fait des audits, mais aussi on leur donne des pistes pour s'améliorer, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que la fidélité de nos relations, dans nos relations avec nos fournisseurs est extrêmement importante et on souhaite vraiment l'aborder sous forme de partenariat. C'est la meilleure manière de collaborer et d'avoir un échange gagnant-gagnant. Et moi, je ne crois pas à la négociation qui tord le bras du fournisseur. Ça marche une saison, peut-être deux, mais dans le temps, c'est pas constructif. Effectivement, pendant le Covid, il y a beaucoup de... on a tous été extrêmement choqués, secoués par cet arrêt brutal de tout commerce et donc de rentrée d'argent, en tout cas via nos magasins. Et puis nous, on avait même fermé le site internet, les livraisons pendant un temps parce qu'on n'était pas capable d'assurer la sécurité maximale pour nos opérateurs logistiques. Donc pendant quelques semaines, le site ne livrait même plus. Et pour autant, bien sûr, on avait des commandes en cours auprès de fournisseurs en proche import ou en plus grand import. Et on a tenu à ce que chaque commande soit honorée. On a accepté les produits, on a payé les produits. Ça nous a fait des stocks compliqués à juguler à un instant T. Cependant, par un système de mise à l'écart de ces stocks. On a gardé ces quantités en stock et puis on a réétalé ça sur plusieurs saisons et on a réussi du coup à rester dans notre politique de maîtrise du taux de promotion, etc. et d'éviter le surstock saison après saison. Et on a respecté nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs et ça, c'était extrêmement important. On a eu vent de beaucoup d'enseignes qui, pendant la période de Covid, ont juste refusé les marchandises et n'ont pas payé leurs prestataires.
Et est-ce que, toujours dans l'hypothèse de mettre cette grille en open source, il y a une volonté d'améliorer au global l'industrie qui passe notamment par améliorer le parc fournisseur que vous pouvez avoir en commun avec d'autres enseignes de même envergure? Est-ce que ça, c'est des discussions qui sont déjà entamées, notamment parce que vous faites partie du bassin textile nord, donc vous êtes nombreux, ou est-ce que pas du tout, il y a encore une opacité sur les fournisseurs en commun ou non et les méthodes pour améliorer vos pratiques?
Alors, de manière générale, moi, je crois beaucoup à ce que au travail en commun on a tous intérêt à ce que la filière textile soit de plus en plus vertueuse et de moins en moins impactante. On est en train de parler de la planète qu'on va laisser à nos enfants et donc et en même temps, on a envie de continuer à habiller les gens et à leur faire plaisir. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à travailler tous main dans la main. Dans ce sens-là, en tout cas, c'est notre volonté chez ProMode et cette petite initiative, cette goutte d'eau dans l'océan qu'on fait avec cette mise à disposition en open source de cette grille d'éco-conception va dans ce sens-là. Et vraiment, on est hyper ouvert à ce que chacune des marques enseignes qui ont envie de travailler avec nous le fasse, quoi.
Bien prévoir le formulaire de contact dans la grille d'éco-conception pour centraliser les retours. Alors, question politique inhabituelle ici, mais on est quand même en plein cœur des débats, projet de loi pour ralentir la fast et l'ultra fast fashion, la CSDDD qui a été reléguée à l'état de projet il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez, en dehors de vos prises d'initiative et de votre responsabilité d'entrepreneur, une attente particulière en matière de légifération? Qu'est-ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose des politiques et des lois?
J'ai pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à ça. Moi, ce que j'attends juste, c'est que les règles soient appliquées de manière juste et équitable pour tous les acteurs. Nous sommes une entreprise française implantée en France qui distribue nos produits. Nous distribuons nos produits essentiellement en France et on applique les règles de la loi française. Je ne sais pas si c'est le cas et c'est pas mon rôle de juger ça, mais si jamais il y avait des acteurs français ou étrangers qui ne respectaient pas les mêmes règles que nous, alors oui, c'est très bien qu'on durcisse les lois pour que ces règles-là soient plus justes pour tout un chacun. Je pense qu'encore une fois, on a tous intérêt à ce que le secteur textile soit plus vertueux et donc définir un nouveau système de règles pour éviter que certains contournent ces règles-là. Mmh. Moi, ça me va très bien. Après, on est très bien accompagné par des fédérations comme l'Alliance du Commerce ou le Procos, par exemple, dont on est membre. Et donc, on collabore beaucoup avec ces fédérations-là qui sont, elles, en lien direct avec les politiques. Et on leur fait nos retours sur les seuils qui nous semblent acceptables, intéressants. Le but n'est pas non plus d'asphyxier complètement le secteur textile et notre industrie, mais bien d'accompagner celle-ci vers quelque chose de plus durable.
Très bien. Je savais que c'était la question embêtante, mais on est vraiment au cœur du sujet et c'est intéressant justement d'avoir le retour de marques qui sont plutôt en faveur d'un renforcement de la réglementation. On arrive peut-être aux dernières questions. On n'a pas du tout abordé la communication et c'est vrai que donc moi j'étais la première, pourtant je crois normalement bien informée sur le sujet, mais surprise de savoir tout ce qui se passait chez vous. D'abord peut-être la cliente finale, vous diriez qu'elle a quoi comme sensibilité? Est-ce qu'elle s'intéresse au sujet RSE et comment est-ce que on l'aborde en boutique ou en digital?
Moi, je vais pouvoir parler du questionnaire qu'on a fait en novembre dernier, où justement on a un peu interrogé les clientes sur leur sensibilité. Et on avait remarqué du coup que plus de la moitié des répondantes étaient soit sensibilisées, soit en transition sur les sujets RSE. Donc plutôt positif quand même de savoir ça. Et on n'avait que 7% du coup qui se sentaient non concernés par le sujet. Donc je pense que ça donne une vision un peu de la cliente et de où elle en est sur ce sujet.
Moyenne d'âge de ce questionnaire?
Je ne sais pas la moyenne d'âge. Je ne sais même pas si on avait posé la question en début de questionnaire. Bon, il faudrait qu'on demande à Clémence de nous...
J'ai un autre, ouais.
Non, la réponse est non, dans l'oreillette. Okay.
Dans l'oreillette. Non, nous n'avons pas l'information.
Et bon, on a eu 1400
réponses.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que donc elles vous ont informé sur la façon dont elles voulaient être renseignées sur ces sujets? Ou est-ce que... Vous prenez des initiatives en termes de signalétique en boutique, sur le site web, voilà, comment est-ce qu'on parle de tout ça?
Du coup, je vais un peu parler pour Clémence aussi. Mais,
Clémence qui est donc responsable de la communication.
Exactement. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir rentrer en pédagogie, d'avoir un discours vraiment transparent, lisible et pédagogue sur ces sujets-là, parce qu'en fait, on voit que c'est quand même assez technique, assez compliqué. Et on veut pouvoir transmettre le maximum d'informations, mais que ce soit clair et compris. Sinon ça va être compliqué pour pouvoir embarquer les clientes avec nous. Mais on ressent effectivement cette plus de la moitié des clientes qui sont soit sensibilisées, soit en transition. Ça montre aussi qu'elles veulent en savoir plus. Et du coup, ça nous donne plus de choses entre les mains pour pouvoir les accompagner justement dans ce sujet-là. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de rendre les choses plus accessibles, le plus accessible possible, le plus simple, de un peu filtrer aussi sur les communications, pas partir dans tous les sens, essayer d'avoir quelque chose de clair et de précis, et de simplifier un peu ça. Et ça passe du coup beaucoup par la coopération aussi des équipes en interne. Donc, c'est-à-dire que oui, Clémence est du coup responsable de la com RSE en particulier. Mais du coup, c'est un travail qu'elle fait vraiment en commun avec les équipes aussi des achats, les équipes RSE, qualité, etc. Et c'est vraiment cette coopération qui permet ensuite de retranscrire un message plus clair pour les clientes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des annonces à nous faire sur des prochaines étapes de développement ou également des questions recrutement, peut-être, pour ceux qui nous écoutent ?
Non, au niveau global entreprise, on s'est engagé dans une démarche de devenir entreprise à mission. C'est un travail de fond qu'on fait extrêmement sérieusement. On prend le temps de le faire. On verra où ça nous mène. Mais en tout cas, c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant parce qu'on a déjà fait toute la phase d'écoute de nos différentes parties prenantes et notamment de nos clientes, comme vient de le dire Juliette. Et tout ça va nous permettre aussi d'ajuster nos manières de communiquer, nos manières d'entrer en relation. Et puis, je l'espère, de définir une mission avec une raison d'être et des objectifs qui seront clairs et intelligibles à partager avec tous et pour encore un peu plus ancrer cette démarche de vertueuse vers toujours plus d'éco-responsabilité, de durabilité au sein de notre industrie et en particulier chez ProMode avec l'ensemble des parties prenantes.
Alors, j'aimais l'hypothèse que ce podcast se retrouve dans l'application, ou en tout cas diffusé à l'ensemble de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? La question est pour vous trois.
Déjà, un grand bravo. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on voulait souligner parce que il y a une vraie implication qui grandit de jour en jour pour ce sujet sur l'éco-conception. Les équipes sont motivés et donc ça c'est chouette parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe et aussi très technique, donc la difficulté parfois, et moi-même étant cis, d'appréhender tous ces sujets, voilà, l'échange, le partage et bravo déjà pour le chemin parcouru.
Oui, grand bravo, on est fiers, on est fiers de tout ce qui a été déjà fait et on espère qu'on va continuer dans la direction qui va plutôt positivement.
Et oui, j'ai envie d'ajouter, on en a parlé au début, mais le produit est bien au cœur de l'entreprise ProMode et la RSE est aussi au cœur de notre projet et ce sujet autour de l'éco-conception allie vraiment à la fois cette envie, ce besoin d'être toujours plus durable et la manière dont on fait notre produit. Et je pense que chez ProMode, nous sommes des professionnels de la mode et c'est bien notre rôle d'aller apporter une solution durable et désirable à notre cliente avec une mode qui soit toujours moins impactante et tout en restant la plus émotionnelle possible. Et donc, on est bien dans cette démarche-là. Et j'en profite aussi pour dire un grand bravo à toutes les équipes. Enfin, moi, je suis extrêmement fier de voir à quel point ces initiatives peuvent naître et prendre vie chez ProMode. C'est beau.
Et alors, peut-être un mot pour l'industrie au global. Est-ce que, à vos homologues, vous auriez quelque chose à dire pour vous rejoindre dans cette transformation ?
Oui, je pense qu'on a vraiment tous intérêt à travailler en commun. Je pense que si on est chacun Nous sommes tous uniques avec un positionnement qui nous est propre et donc il n'y a pas vraiment de compétition à proprement parler. À partir du moment où on a son territoire de marque à soi et donc bien travaillons en commun sur des fondamentaux qui vont nous permettre tous d'aller plus vite vers une mode plus durable. Et en tous les cas, nous, c'est bien dans cet objectif-là qu'on met à disposition cette grille d'éco-conception. C'est que on a eu envie et besoin d'anticiper certaines choses. L'affichage environnemental va être un peu un big bang, je pense, dans notre industrie. Il faut s'y préparer, c'est compliqué. Chez Promon, on a la chance d'avoir des personnes et des personnalités extrêmement compétentes qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Eh bien, partageons ça et venez tous enrichir notre grille d'éco-conception.
C'est hyper intéressant parce que c'est peut-être le mot de la fin, mais vous avez dit une chose juste. À partir du moment où on a une identité forte et on sait quels sont, enfin, définir les contours de sa marque, on n'a pas de raison d'avoir peur de ses compétiteurs. Je pense qu'une des raisons de la perdition de l'industrie, c'est la massification de l'offre et l'harmonisation globale de l'ensemble des produits. Donc, commencer par savoir qui on est, pourquoi on crée quelque chose avant de savoir comment est-ce qu'on va le fabriquer, c'est en soi déjà une raison d'être quand on est une marque de mode. Merci beaucoup à tous les trois. On n'a pas répondu à la question des postes à pourvoir chez vous, mais on pourra les mettre dans les notes de l'épisode. Il y a forcément des sujets IT, forcément des sujets parc retail. Voilà, sauf si vous avez vraiment un besoin très spécifique à exprimer maintenant. Sinon, je verrai ça avec Clémence. Et je vous dis un grand merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.